Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Bruno Gagnère-Fontani.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre semaine japonaise qui nous a conduit des fiefs de l'époque d'Edo aux usines d'après-guerre en passant par les mines de Meiji, quittons aujourd'hui la compagnie des daimyo et des samouraïs pour rejoindre celle des travailleurs du Japon contemporain. L'an dernier, le suicide d'une jeune femme de 24 ans a relancé dans le pays le débat sur le karoshi, la mort par surmenage. La chaîne publique NHK avait largement couvert le scandale avant de finir par avouer qu'une de ces jeunes journalistes était également morte d'épuisement 4 ans plus tôt. Le karoshi, un phénomène qui s'est exacerbé dans les années 90 et qui soulève de nombreuses questions sur le rapport des Japonais au travail et à l'entreprise. Des questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du modèle du travail au Japon en compagnie de Julien Martine, maître de conférence en études japonaises à l'université Paris Diderot, et d'Arnaud Griveaux, enseignant à l'INALCO. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho et Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Julien Martine et Arnaud Griveaux, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on définit souvent le travail au Japon par trois caractéristiques, même si on va le voir au cours de cette émission, le modèle a largement évolué. Trois caractéristiques donc, l'emploi à vie, le salaire à l'ancienneté et un management paternaliste. Alors, à quel moment et dans quelles circonstances est-ce que ce modèle est apparu, Julien Martine ?
Alors, c'est un modèle qui apparaît au début du XXe siècle dans un contexte où l'industrie lourde va chercher à stabiliser sa main-d'œuvre, donc une main-d'œuvre qui est assez peu qualifiée, qu'elle va devoir former elle-même, et donc à qui elle va proposer un emploi un peu plus stable, en tout cas de long terme.
Alors le modèle du travail au Japon se caractérisait alors par un recrutement ritualisé de jeunes diplômés qui avait lieu chaque année. L'entreprise joue ensuite un rôle de formation absolument déterminant.
Dans le système japonais, l'employé recruté n'a aucune compétence, n'a aucune qualification. Il a simplement un potentiel. Et l'entreprise va le former et le former de façon polyvalente. La polyvalence est extrêmement poussée au Japon. Donc au fur et à mesure qu'il travaille dans le process, l'employé en fait acquiert une qualification, acquiert une compétence. C'est-à-dire que le travail s'identifie à la formation, au training. Si bien qu'il n'est pas consommateur d'une compétence ou d'une qualification déjà acquise à l'extérieur, mais acteur, producteur. L'entreprise devient productrice. Si bien que cette qualification, cette compétence qu'il a, il va la consommer dans l'entreprise. L'entreprise la consomme. Alors en échange de la consommation qu'elle fait de cette compétence, eh bien, l'entreprise la rémunère en salaire et en responsabilité, mais elle se définit. Le travail est fondamentalement un processus de consommation de la compétence et de la qualification. Et c'est là le fameux secret, évidemment, de l'identification de la destinée de beaucoup d'employés ou de cadres japonais à leur entreprise.
Le philosophe Serge Hérody sur France Culture en 1990, la formation assurée par l'entreprise fonde le rapport des Japonais au travail et à leur employeur, Julien Martine.
Oui, tout à fait. Donc, dans ce modèle, l'un des avantages était la stabilité de l'emploi qui permettait aux entreprises, aux employeurs, d'investir sans réserve dans la formation de leurs travailleurs, puisqu'ils étaient assurés finalement d'avoir ce fameux retour sur investissement. Donc, la formation a bien entendu considérablement joué dans la construction des relations. Oui.
Et le théoricien James Abeglen voit dans ce rapport des Japonais à leur entreprise, rapport que je vais vous laisser définir, des vestiges de féodalité. La loyauté à l'employeur aurait en quelque sorte remplacé la loyauté au seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors ça c'est une façon de présenter les choses. Effectivement, il y a, si vous voulez, pour bien comprendre le contrat tacite hein, qui avait à la base, au fondement de ce modèle de l'emploi à vie, c'est effectivement la garantie d'un emploi stable en échange d'une protection. C'est le fait d'offrir un emploi stable et en échange de quoi l'employé s'engageait effectivement corps et âme auprès de son employeur. Donc,
Pendant longtemps, les entreprises y trouvent leur compte et les salariés aussi. Ils acceptent de modérer leurs revendications salariales, notamment en échange de cette stabilité de l'emploi.
Exactement.
Alors aujourd'hui, on sait que ce modèle évolue. Qu'en est-il ? Est-ce que l'emploi à vie existe toujours au Japon ? Mais est-ce qu'il concerne peut-être de moins en moins de travailleurs, Julien Martine ?
Oui, alors clairement, là, il faut recontextualiser les choses. Il y a une période de fracture dans l'histoire économique du Japon qui intervient autour des années 90 et la décennie perdue qu'on va appeler, la période des années 90 jusqu'au début des années 2000.
Après cette période de très forte croissance.
Voilà, après cette période de très forte croissance qui va marquer effectivement une rupture dans ce contrat moral, dans ce contrat tacite qui liait les employés et les entreprises. Disons que les entreprises n'étant plus en mesure de garantir justement cette stabilité de l'emploi, il va y avoir un effritement, une mutation en tout cas des attentes et une détérioration de la confiance des entreprises, des employés à l'égard de leurs employeurs.
Ce qu'il faut peut-être expliquer aussi, Julien Martine, c'est que l'emploi à vie était et est encore peut-être surtout une caractéristique des grandes entreprises, beaucoup moins des petites et moyennes entreprises qui constituent 80% des entreprises japonaises.
Complètement. Et puis au-delà de ce clivage entre grandes entreprises et petites entreprises, il faut aussi rappeler que le modèle de l'emploi à vie, en réalité, ne concerne que les travailleurs permanents, c'est-à-dire ceux qui sont recrutés sur le long terme et ce qui correspondrait chez nous en France aux employés qui seraient embauchés en CDI et en dehors de ces travailleurs, il y a aussi tout un volant de travailleurs non permanents.
Qui représente à peu près 40% de la masse salariale ?
Aujourd'hui, qui effectivement représente 40% et qui représentait à peu près 80% dans les années 80.
Alors, intéressons-nous un peu à ces travailleurs non permanents. Dans les années 80, ces travailleurs, qu'on pourrait donc appeler travailleurs précaires, représentaient 20% des salariés. Et ce chiffre a largement augmenté à partir des années 90, lorsque le Japon entre en crise. On a de plus en plus de contrats précaires.
Oui, complètement. Alors, la précarisation du travail n'est pas uniquement liée à la crise des années 90. Elle correspond, à la dérégulation du marché du travail qui intervient dans les années 80. Avec une légalisation du travail temporaire et des agences d'intérim. Donc dans ce contexte-là, on voit émerger de plus en plus de travailleurs irréguliers. Et bien entendu, la crise des années 90 va inciter les entreprises à d'abord geler les embauches d'employés permanents et préférer le travail irrégulier. Ça va également contribuer à protéger, c'est une façon aussi de protéger les employés permanents de l'entreprise. Se doter d'un volant de travailleurs non permanents, irréguliers, permet finalement de disposer d'une variable d'ajustement en cas de crise économique ou de situation de sureffectif. Et à cela s'ajoute, depuis les années 80-90, une augmentation du travail notamment dans le bâtiment, dans le tertiaire, avec la restauration qui va effectivement être particulièrement friande de ces contrats non permanents, puisque dans ces secteurs d'activité, le travail irrégulier va représenter entre 50 et 70% des travailleurs.
Donc c'est à partir des années 90 qu'on voit apparaître cette volonté gouvernementale de fluidifier le marché du travail. Comment est-ce que ça évolue, Arnaud Griveaux ?
Effectivement, ça, disons que cette enfin, flexibilisation du marché du travail apparaît comme étant l'un des moyens de sortir, disons, l'industrie, en tout cas l'économie japonaise de la crise. Et donc, c'est par ce biais-là que les entreprises japonaises qui ont une sorte de déficit de compétitivité, évidemment pas toutes, mais en tout cas un certain nombre d'entre elles, pourrait, hein, disons, regagner le chemin de la compétition. Et c'est vrai que, comme disait Julien Martin, cette création de variables d'ajustement, justement, disons, permet de protéger une partie des employés qui sont, eux, réguliers. Et on voit effectivement que les syndicats, justement, qui sont surtout des syndicats de salariés réguliers, ne prennent franchement pas, disons, parti pour ces... pour ces salariés-là irréguliers.
Et du côté des travailleurs permanents, ceux qu'on appelle les Seishin, alors je le prononce...
Seishin.
Voilà, Seishin, vous le dites beaucoup mieux que moi, qu'on peut traduire par vrais employés.
Oui, oui. Ouais, c'est ça.
Tous n'ont pas les mêmes perspectives de carrière non plus. On voit aussi apparaître un certain clivage au sein de ces travailleurs, Julien Martin.
Oui, bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous faites référence peut-être aux différences entre les travailleurs féminins, peut-être, qui au sein de cette catégorie vont...
Absolument, oui. Racontez-nous quel est ce clivage qui apparaît.
Disons qu'au sein même donc de cette catégorie de Seishin, on va voir apparaître une distinction entre des femmes qui vont être engagées sur des contrats, on va dire, de voie managériale, et donc qui vont pouvoir progresser, évoluer dans l'entreprise, alors que il existe en parallèle de ces contrats une autre voie, la voie de l'emploi plutôt de base, qui a été notamment largement utilisé pour ce que l'on appelait les office ladies, donc l'équivalent de secrétaire amélioré très présent dans les entreprises japonaises, et qui vont offrir la stabilité de l'emploi, mais finalement des perspectives d'évolution de carrière relativement faibles. Mais la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'engagement à la mobilité géographique. C'est-à-dire que, alors que le premier type de contrat qui va permettre cette évolution de la carrière va impliquer un très fort volume d'heures supplémentaires et une mobilité géographique, donc accepter que l'employeur transfère dans une filiale pour aller justement acquérir de nouvelles compétences, vous former finalement dans d'autres branches, dans d'autres filiales. Voilà, donc
ces femmes-là ont une stabilité et peuvent rester au même endroit, Arnaud Griveaux.
Voilà. Oui, c'est ça, oui. Disons que même c'est un des problèmes, justement, pour un certain nombre d'employés, d'accepter cette mobilité. Certains partent même donc tout seuls, vivre tout seuls pendant 2-3 ans, parfois même plus, parce que les mutations peuvent tout à fait se suivre les unes après les autres, et on peut être envoyé dans le sud du Japon, Kyushu, puis ensuite Hokkaido, dans le nord du Japon, à plus de 1000 km de là. Et on n'a pas vraiment de chiffres très précis là-dessus, mais dans les années, en 2010 environ, il y avait 2,3% des hommes qui étaient en couple qui vivaient tout seuls, finalement, donc ce qu'on appelle le Tanshin Funin, c'est le fait d'être envoyé tout seul. Et donc parfois, les personnes rentrent en TGV, enfin en Shinkansen, rentrent chez eux le week-end, mais parfois non. Et certains emmènent leur femme et leurs enfants quand ils sont plus jeunes, mais après, l'enfant reste, ils veulent laisser dans la même école, et donc les personnes vivent séparément, en fait, une séparation de corps comme ça pendant des années.
Alors, je parlais tout à l'heure de ce recrutement ritualisé de jeunes diplômés qui avait lieu une fois par an et qui caractérisait peut-être ce qu'on peut appeler l'ancien modèle. Désormais, Julien Martin, un certain nombre d'entreprises recrutent désormais toute l'année. On a un changement sur ce point.
Oui, complètement. Alors, il faut relativiser les choses. C'est-à-dire que la période de recrutement massive de jeunes recrues se fait encore massivement, et disons c'est une voie qui reste quand même largement traditionnelle, dans le sens où énormément de jeunes diplômés vont sur ces foires à l'emploi pour obtenir leur premier contrat de travail.
Qu'est-ce que cela permet, ce fonctionnement?
Ce fonctionnement permet deux choses. D'abord, d'améliorer, de supprimer la rupture qui peut y avoir, comme dans certains pays, comme en France notamment, entre la fin des études et l'insertion professionnelle. Donc ça c'est un point très important. Donc ça permet d'obtenir un emploi avant même d'être diplômé, et ça permet aussi aux entreprises d'effectuer des recrutements massifs et standardisés.
Sauf que ce phénomène évolue, et donc oui. Désormais on recrute tout au long de l'année, avec aussi cette idée que la formation par l'entreprise est rentable si l'employé reste de façon durable, ce qui est de moins en moins le cas.
Oui, alors le recrutement tout au long de l'année, et aussi le recrutement à mi-carrière, sont des phénomènes qui vont s'accentuer dans les années 90. Donc, pour les raisons, bien entendu, économiques et structurelles dont on a pu parler, mais aussi c'est lié à une évolution des compétences dont les entreprises ont besoin pour gagner de nouvelles parts de marché, rester compétitif. C'est-à-dire que autrefois la formation qui était essentiellement donnée en interne permettait d'acquérir, de donner aux salariés les compétences suffisantes pour permettre à l'entreprise d'être performant. Les évolutions technologiques depuis les années 90 ne permettent plus systématiquement cette chose-là. Et donc le recrutement de travailleurs déjà qualifiés, déjà compétents, va permettre de récupérer dans l'entreprise de nouveaux profils de compétences. Et voilà.
Arnaud Griveaux.
J'ajouterais peut-être aussi à ça qu'il y a même chez les salariés une volonté aussi parfois de ne pas rester dans la même entreprise, d'évoluer plus rapidement, parce que c'est vrai que la promotion à l'ancienneté peut être rassurante, mais elle est finalement assez lente si on compare avec d'autres secteurs. Et donc on a des employés qui ont envie de passer d'une entreprise à une autre, d'avoir des promotions plus rapides.
Oui.
Julien Martine.
Et c'est particulièrement vrai, effectivement, chez les jeunes, les jeunes recrues.
On peut dire un mot des salaires et de la façon dont ils ont évolué. Est-ce que ces salaires sont toujours liés à l'ancienneté, Julien Martine, plutôt qu'à la fonction occupée dans l'entreprise ?
Alors, il faut là encore remettre un peu les choses en contexte. C'est vrai qu'on a parlé des trois piliers du modèle de l'emploi à vie. On avait présenté la rémunération et l'avancement à l'ancienneté comme l'un des piliers de ce modèle. Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, le principe de l'ancienneté a considérablement régressé. Après, si on fait des comparaisons internationales, on peut pas dire que ce principe est totalement disparu. En revanche, on s'aperçoit que notamment il est encore présent dans les grandes entreprises, et notamment sur les débuts de carrière, où on va avoir quand même une progression avec l'ancienneté. Mais cette situation, ce système de rémunération à l'ancienneté va être rapidement rattrapé par d'autres mécanismes d'évaluation qui vont être davantage fondés sur la performance, le résultat.
Et sur le mérite. Alors le Japon, on le sait, est l'un des pays qui connaît le plus important vieillissement de sa population. Presque 30% des Japonais ont plus de 65 ans. Et par conséquent, on continue à travailler de plus en plus longtemps.
J'ai 70 ans, mais je me sens encore jeune. Je crois que le projet du gouvernement, c'est très bien. Il faut que les gens travaillent après 70 ans. Nous sommes en bien meilleure santé que les générations passées. Tant que mon corps sera en forme, je veux continuer à travailler.
Comme on dit, les cerveaux des paresseux sont possédés par le diable. Moi, je me reposerai quand je serai mort.
Notre combat, c'est de diminuer les heures de travail par jour. Mais c'est une bonne chose que les personnes âgées aient la possibilité de travailler toute leur vie si elles le veulent, tant qu'elles sont en bonne santé et que leur sécurité est garantie sur le lieu de travail.
Voilà des témoignages de travailleurs japonais qui peuvent avoir plus de 80 ans, comme ce chauffeur de taxi qui compte se reposer une fois qu'il serait mort. C'est ce qu'on entendait. On entendait également la voix d'un syndicaliste. À partir de quel moment le Japon prend conscience du phénomène du vieillissement de sa population et des problèmes que cela peut engendrer, Julien Martine ?
Alors ça s'étale. C'est une question, la question de l'emploi des seniors, ou en tout cas des difficultés que rencontrent les seniors à rester sur le marché du travail, commence à émerger dès les années 50. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, les travailleurs de plus de 50 ans ont des difficultés à trouver du travail, et notamment à être embauchés. Si, pour reprendre une statistique, en 1960, il y a 5 offres d'emploi pour les travailleurs de moins de 19 ans et seulement 0,2 offres pour les travailleurs de plus de 56 ans.
Et pour quelle raison ?
On voit un décalage. Alors ça dans le contexte des années 50, ça s'explique par une volonté des entreprises d'embaucher massivement des jeunes à la sortie de l'école, justement pour les former aux techniques de l'entreprise, à l'esprit de l'entreprise, etc.
Donc dès les années 60, l'État va tenter d'inciter les entreprises à embaucher davantage les seniors.
Alors c'est le constat qui est fait déjà dans les années 60, mais réellement les mesures fortes, on va dire, du gouvernement japonais vont intervenir à partir du début des années 70, notamment avec l'instauration d'un système de quotas. Alors en 1971, c'est un quota de 6% de travailleurs de plus de 45 ans qui est imposé aux entreprises. En 1976, ce quota de 6% portera sur les travailleurs de plus de 55 ans. Mais on va voir se développer à partir des années, notamment du milieu des années 86, tout un certain nombre de dispositifs d'aide, d'accompagnement des entreprises pour le rehaussement de l'âge de la retraite obligatoire dans ces entreprises pour le faire remonter à l'âge de 60 ans.
C'est véritablement dans les années 2000 que le nombre de travailleurs âgés explose au Japon et que le phénomène des travailleurs âgés et précaires apparaît, notamment parce que la génération du baby boom arrive à l'âge de 60 ans.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que dès les années 70, la question de la précarité des travailleurs seniors est présente dans le débat public.
Mais dans des moindres proportions, peut-être.
Disons que... pas nécessairement, c'est-à-dire que il faut relativiser la chose, puisque finalement le problème des années 70, c'est la réforme, en 1973, c'est la pleine application de la première grande réforme du système de pension publique qui avait porté l'âge de départ à la retraite, ou plutôt plus exactement l'âge d'ouverture aux pensions publiques, de 55 à 60 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, la pratique au niveau des entreprises, consistait à maintenir en emploi les travailleurs jusqu'à l'âge de 55 ans. Ce qui a créé un décalage, si vous voulez, important, un décalage de 5 ans entre l'âge de perception des pensions publiques et l'âge de cessation, ou en tout cas de l'arrêt du contrat de travail au niveau des entreprises. Cet écart va être réduit progressivement dans les années 80, et notamment va être complètement entériné dans le milieu des années 90 avec l'interdiction pour les entreprises de fixer un âge de départ à la retraite inférieur à 60 ans, pour justement faire coïncider ces deux âges. Et au début des années 2000, le même phénomène va se renouveler, cette fois-ci avec l'entrée en application d'une seconde grande réforme des pensions publiques, qui cette fois-ci va faire passer l'âge de perception des pensions publiques de 60 ans à 65 ans. En fait, on rejoue le match qui s'était passé dans les années 70. Et effectivement, vous avez raison d'attirer l'attention sur la quantité de seniors, puisque au début des années 2000, notamment l'année 2007 de mémoire, correspond à l'arrivée à l'âge de 60 ans des baby-boomers. Donc il y a un effet de masse en plus qui va s'ajouter à la situation.
Alors depuis 2013, les employeurs doivent offrir à tout employé n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite donc la possibilité de continuer à travailler dans l'entreprise jusqu'à 65 ans, mais la loi n'impose pas de conditions de travail ou de contrats spécifiques pour les seniors, Julien Martin.
Exactement, c'est-à-dire que la loi dit la chose suivante, tout employé qui souhaite poursuivre une activité professionnelle jusqu'à 65 ans a la possibilité de le demander à son employeur. Donc ça, c'est une obligation légale. En revanche, la loi ne dit rien sur ni les conditions de travail, ni le type de contrat.
Et dans les faits, le réemploi des personnes âgées, c'est souvent l'occasion pour l'employeur de diminuer les salaires.
Voilà, donc dans plus de 80% des cas, l'option qui est choisie par les entreprises consiste à conserver un âge de retraite obligatoire de l'entreprise à 60 ans, et de proposer un réemploi sur la base d'un contrat renégocié.
Donc, et souvent plus précaire.
Et souvent, le contrat de travail est souvent un contrat d'un an renouvelable 5 fois. Si concerne la période de 60 à 65 ans, en tout cas c'est un contrat renouvelé. Donc il y a cette précarité, mais aussi c'est l'occasion effectivement pour l'entreprise de renégocier le niveau de rémunération. Donc il y a la rémunération qui va être renégociée, mais aussi tout le dispositif de la rétribution. Donc on pense notamment au système de bonus qui est important dans les entreprises japonaises, auxquelles ne vont plus bénéficier les travailleurs réemployés après cet âge de départ à la retraite obligatoire.
À tel point qu'on estime que les 60-64 ans gagneraient environ 30% de moins que les 50-54 ans.
Exactement, voilà, c'est les chiffres avec en plus des disparités assez fortes entre les configurations entre les grandes entreprises et les petites entreprises.
Alors il y a tout de même des entreprises dans lesquelles on adapte les conditions de travail aux seniors. Ce serait 20 à 30% des entreprises qui pratiqueraient par exemple un ajustement du temps de travail.
Oui, effectivement, un certain nombre d'entreprises, et en particulier les entreprises qui ont du mal à recruter des jeunes salariés ou à maintenir en emploi les salariés les plus jeunes, effectivement, vont entreprendre une réflexion pour maintenir en emploi les travailleurs déjà existants. Et donc s'interroger sur les aménagements, les adaptations nécessaires pour créer les conditions d'un emploi jusqu'à 65 ans, voire plus.
Est-ce que vous diriez que le regard qui est aujourd'hui posé sur les personnes âgées au Japon a évolué par rapport à cette vision qui était encore très respectueuse dans la société japonaise encore largement agraire des années 50?
Oui, clairement, il y a une détérioration de l'image de la personne âgée. Dans une société agraire, les seniors avaient leur place, ils étaient respectés, ils occupaient des fonctions. Avec l'industrialisation massive du Japon et la nucléarisation de la famille japonaise dans les années 50, dans les années 60, finalement les liens intergénérationnels se sont un peu distendus et on a perdu cette relation aux aînés. Donc la détérioration par exemple de l'image des travailleurs, enfin en tout cas l'image des seniors, des personnes âgées dans la société japonaise, peut se manifester de plusieurs façons. Il va y avoir un remplacement au niveau sémantique de termes.
Oui, on parlait d'otoshiyori pour désigner les personnes âgées.
Otoshiyori, exactement.
Qui était un terme très respectueux.
Très honorifique, avec la particule O, donc honorifique. Et on va plutôt lui substituer, on va plutôt lui préférer une terminologie plus administrative de koreisha.
Et à partir des années 70, lorsque le système de protection sociale se développe véritablement, tout d'un coup on a une évolution, une vision des personnes âgées comme un poids pour la société,
oui,
qui apparaît.
Effectivement, c'est le passage de la prise en charge de la sphère familiale à la sphère publique qui va accentuer un peu cette image des personnes âgées comme pouvant parfois être considérées comme un fardeau pour la société. Et donc cette évolution va être suivie, accompagnée d'une incitation au vieillir actif, c'est-à-dire la prise en charge des personnes âgées par elles-mêmes.
Arnaud Griveaux.
Mais pour rebondir sur ça, c'est vrai que déjà même au Japon, l'idée de la protection sociale passe quand même vraiment beaucoup par le biais du travail et de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que les travailleurs réguliers, donc les seishin, en CDI, avaient une importante protection sociale et finalement, une personne qui ne rentre pas dans ce cadre-là, finalement, non seulement elle est précaire, mais en plus, elle n'obtient absolument pas le même type de pension de retraite, elle n'obtient absolument pas le même type de protection, donc assurance maladie. Donc finalement, il y a une espèce de succession comme ça de système qui fait qu'une personne qui ne rentre pas dans les clous est vraiment très défavorisée. Et c'est très probablement ce type de personnes âgées qu'on retrouve après à être chauffeur de taxi, par exemple.
Et l'âge de la retraite continue à reculer, puisque récemment, le gouvernement a décidé qu'à partir de 2020, tous les travailleurs publics ou privés pourront, s'ils le veulent, commencer leur retraite à 71 ans ou plus. Julien Martine. On voit que ça ne cesse d'évoluer.
Oui, alors c'est effectivement la tendance est clairement à la hausse.
Et les employeurs pourront même employer des personnes encore plus âgées. C'est un seuil minimum.
Mais c'est le cas déjà d'un nombre important d'entreprises. De mémoire, il y a déjà une vingtaine de pourcents d'entreprises japonaises qui proposent à leurs salariés de rester en emploi jusqu'à 70 ans. L'objectif à terme du gouvernement, l'objectif affiché clairement, est de créer une société d'actifs à vie, c'est-à-dire permettre à ceux qui le souhaitent de rester en emploi aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
C'était Welcome to Japan des Strokes. On parle des différents visages du travail au Japon sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes avec Julien Martine et Arnaud Griveau. Alors, le monde du travail au Japon est aussi marqué depuis plusieurs décennies par la place croissante prise par les femmes. Je vous propose d'écouter l'historien François Godemont et le témoignage d'une japonaise exerçant comme traductrice à Tokyo.
Les femmes au Japon sont censées arrêter de travailler quand elles se marient. Elles sont d'ailleurs pas censées avoir des enfants en dehors du mariage. À 98%, c'est dans le mariage. Donc une femme, normalement, sauf vraiment milieu ouvrier et obligation absolue, et du coup travail extrêmement pénible, à 30 ans, c'est plié. On est à la maison. Il n'y a pas un seul moyen de crèche, il n'y a pas un seul, si vous voulez, soutien. Ce pays-là, de ce point de vue-là, est resté profondément différent des autres démocraties occidentales.
It is tougher for...
C'est plus difficile pour les femmes de trouver un emploi que pour les hommes, car les entreprises japonaises accordent la priorité aux hommes. Les femmes qui restent en dehors du marché du travail pendant 3 à 5 ans éprouvent encore plus de difficultés. Tout ce qu'elles peuvent espérer, même les diplômées d'une bonne université, c'est un emploi dans un supermarché.
Voilà, je précise que les deux extraits qu'on vient d'entendre ont été enregistrés en 2009. La situation a largement évolué, Arnaud Griveau, en une dizaine d'années.
Oui, mais disons qu'elle avait quand même déjà évolué un peu avant. Déjà, bon, c'est vrai que les femmes, en général, quittent, donc à 60%, les femmes quittent leur emploi après, non pas le mariage, ça a évolué, mais après la naissance du premier enfant. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de crèches, dire qu'il n'y en a pas du tout. Bon, il y a vraiment eu des efforts qui ont été fournis là, et pour le coup, c'est vrai, assez récemment. Mais alors qu'il y a de moins en moins d'enfants et qu'il y a de plus en plus de crèches, il y a de plus en plus d'enfants qui ne parviennent pas à trouver une place dans une crèche. Donc ça montre bien quand même le phénomène. Voilà, donc les femmes vont faire un passage à la maison, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Mais ce qui a changé, c'est qu'elles reprennent en général ensuite le travail, et là pour le coup il est vrai que quand elles reprennent le travail, elles ne reprennent pas le travail avec un statut de salariée permanente, mais justement de salariée disons précaire, donc elle ne sera pas une Seychelles.
Alors ce qu'il faut expliquer, Arnaud Privot, c'est que pendant longtemps le monde du travail était presque exclusivement masculin au Japon. Est-ce qu'on peut dire que le marché du travail s'est historiquement et traditionnellement construit par et pour les hommes?
Oui, en tout cas, c'est vrai que la norme masculine, la norme donc de l'homme qui travaille donc avec des horaires très extensifs, et justement ce dont on parlait, la mobilité, disons qu'il y a vraiment cette idée que l'entreprise offre une certaine protection sociale, non seulement pour le salarié, mais en fait pour la famille, et la promotion à l'ancienneté aussi fait que les salaires augmentent en fonction des besoins de l'homme salarié, mais en fait de son foyer également. Et c'est vrai que toutes les normes de travail se sont construites sur cette idée-là, donc de l'homme qui travaille et de la femme qui reste à la maison.
Et c'est aussi la précarisation croissante des emplois qui pousse de plus en plus de femmes à intégrer le monde du travail pour maintenir le niveau de vie du ménage.
Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est que le salaire des hommes ne suffisait plus, et donc les bonus, par exemple, qui pouvaient faire parfois doubler quasiment le salaire annuel. Voilà, ce genre de pratique a commencé à disparaître, ou en tout cas à diminuer drastiquement. Et donc les femmes finalement se sont mises à travailler. Donc je crois qu'en 1996, par exemple, le nombre de couples dont les deux parents travaillent a dépassé celui dans lesquels seul l'homme travaille.
Au milieu des années 90.
Voilà, au milieu des années 90. Donc vous imaginez probablement que c'est principalement les jeunes dont les deux parents travaillent. Donc c'est devenu quand même plutôt la norme, ça.
Donc de plus en plus de femmes qui travaillent, et pourtant le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité reste très faible au Japon, alors même que le nombre de femmes diplômées ne cesse d'augmenter.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, comment expliquer ce phénomène ?
Disons qu'il y a un phénomène de plafond de verre comme on en a, disons, à peu près partout, finalement, comme dans toutes les démocraties occidentales, d'ailleurs, aussi.
On avait 12% de femmes diplômées en 1980 et 46% en 2012.
Oui. Disons que c'est vrai que les femmes, justement, ont cette interruption de carrière donc liée à la naissance, en général, d'un enfant, qui fait que, dans un système où la promotion à l'ancienneté demeurait quand même sinon le moyen principal de progresser dans l'entreprise. En tout cas, il est vrai que c'est un élément important, voilà, d'avoir ce type de mobilité, d'avoir
Julien Martin.
Oui, effectivement, quand on regarde les chiffres, il n'y a que 12% des femmes qui occupent des fonctions d'encadrement. Et comme le dit Arnaud Grivaud, ça s'explique par le modèle de gestion, finalement, des entreprises japonaises, et cette rupture qui va vraiment affecter la carrière des travailleurs féminins. L'autre implication dont on avait parlé en début d'émission, à savoir au sein même des travailleurs permanents, maintenant, ceux qui vont être engagés sur cette voie managériale, et ceux qui vont rester sur une voie, on va dire, plutôt basique, sans perspective d'évolution de carrière.
Et en même temps, il y a une vraie volonté de Shinzo Abe, du Premier ministre, d'intégrer davantage les femmes au monde du travail. Alors c'est d'abord pour des raisons économiques, mais alors quelles sont ces mesures qui sont mises en place pour favoriser le travail des femmes, Arnaud Grivaud ?
Alors pour l'instant, malheureusement, les mesures sont quand même très... je ne veux pas dire cosmétique, mais il y a quand même finalement...
Donc c'est essentiellement de la communication ?
Disons oui, beaucoup. En fait, on est encore, ça fait 20 ans qu'on le dit, mais on est encore dans une phase de mise en visibilité du problème. Alors au cas où on ne serait pas rendu compte que le problème était existant.
Pourquoi c'est si compliqué de mettre en place ces mesures ? Il y a encore une forte résistance de la société ?
Oui, il y a une forte résistance de la société, même déjà au niveau des mentalités, parce qu'un sondage finalement de 2014, je regardais là, montrait qu'il y avait encore à peu près 50% notamment des gens qui considéraient que la femme qui reste au foyer et l'homme qui travaille est un modèle, disons, vis-à-vis duquel on doit être à peu près d'accord, on doit trouver ça à peu près normal. Donc
Et en même temps, le célibat augmente, notamment le célibat des femmes, ce qui rend aussi ce travail nécessaire, Arnaud Gribaud.
Ah oui, ça, de toute façon, oui, c'est sûr que oui, c'est absolument nécessaire finalement pour les femmes d'entrer dans un monde du travail qui ne les cantonnerait pas à un statut, justement, un statut de précaire, parce qu'il y a quand même 65% des femmes qui sont sur le marché de l'emploi, mais 70% des femmes sont donc des travailleurs irrégulières, on va dire. Donc c'est ça qui fait que même si on a donc des femmes qui travaillent dans des positions subalternes, on n'arrive pas à avoir une promotion des femmes chez les cadres.
Une forte résistance, Julien Martine, à ce travail des femmes et notamment évidemment à ces positions supérieures dans l'entreprise.
Oui. Et puis il faut dire aussi que le marché du travail est peu attractif pour une femme et pour une jeune femme. Hein. Quand on regarde l'actualité, puis le nombre d'heures supplémentaires qu'il faut effectuer, la lutte pour la compétition qu'il y a au sein des entreprises, les nombreux déplacements qu'il faut faire pour pouvoir être promu, les concessions, finalement, rendent le travail aussi assez peu attractif pour un certain nombre de jeunes femmes qui vont préférer peut-être trouver se marier et effectivement avoir une situation, on va dire, plus... moins exposée au niveau du travail.
Rien n'est fait pour faciliter le fait d'être à la fois salarié et mère en même temps.
Ah oui, complètement. Oui, c'est effectivement cette question-là de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'il faut changer finalement tout un modèle qui, comme on le disait, a été construit avant tout sur un modèle d'homme qui gagne les revenus du foyer. Et donc, au final, il faut changer tout le rapport au travail. Donc, comme Julien Martine le disait, les heures supplémentaires, tout cet engagement finalement extensif vis-à-vis du travail n'est absolument pas intéressant, et au final, par ailleurs, on voit que les jeunes et même les hommes aspirent de plus en plus à avoir une vie familiale. Donc c'est peut-être par là que ça va changer finalement, c'est le fait que l'aspiration des jeunes diffère quand même grandement de celle de leurs aînés.
Vous parliez des heures supplémentaires, je le disais en introduction, le monde du travail japonais est particulièrement marqué depuis les années 90 par le phénomène du karoshi, cette mort par surmenage qui est causée notamment par les heures supplémentaires.
Le karoshi n'est pas vraiment une forme d'esclavage. Ce n'est pas du travail forcé, car dans sa forme la plus répandue, c'est d'abord une volonté du salarié de travailler beaucoup après un accord passé avec son employeur. Mais le travail accepté par ses salariés est tellement prenant, tellement fatigant, qu'il cause des symptômes très graves qui touchent le cœur, puis le cerveau. Et le salarié peut en mourir subitement. C'est une fin tragique.
Il y a 19 ans, en 1999, un jour de grande chaleur en été, mon mari, Toshiro Nakahara, après avoir été promu 6 mois plus tôt directeur du département de pédiatrie de l'hôpital, s'est jeté du haut du bâtiment. Son travail l'épuisait totalement. En tant que pédiatre, il assurait un service de garde, c'est-à-dire 36 heures d'affilée, 8 fois par mois, ce qui est largement supérieur à la moyenne des heures autorisées.
Extrait d'un documentaire d'Arte intitulé « Japon, les forçats du travail » diffusé en mars dernier. Quand est-ce que le terme de karoshi est apparu, Julien Martine? À quel moment on fait le lien entre ces morts brutales et le stress au travail?
Alors c'est un phénomène qui va apparaître au début des années 70, avec des rapports de médecins qui vont constater qu'un certain nombre de travailleurs vont être complètement épuisés, qui vont avoir le syndrome d'épuisement professionnel et qui vont être complètement vidés. Le premier cas, je pense, de mémoire reconnu, c'était en 1971, le cas Takemori dans le journal Asahi Shimbun. Donc cette personne avait été victime d'une hémorragie méningée, et justement ça avait posé le cas, la question du karoshi, donc de cette mort par surmenage.
La question du karoshi fait de plus en plus débat au Japon. Est-ce que le phénomène prend une ampleur inédite depuis quelques années, ou est-ce qu'il a surtout gagné en visibilité, Julien Martine?
Alors, il a gagné en visibilité à partir déjà des années, de la fin des années 80, puisque en 88, la première poursuite judiciaire civile va justement aboutir, et donc c'est l'entreprise Tsubakimoto qui va être condamnée à rembourser, enfin pas rembourser, à dédommager l'équivalent de un demi million de dollars la famille d'un de ses employés qui a été reconnu comme victime de karoshi.
Oui, mais il faut attendre le premier livre blanc du gouvernement sur le karoshi. Il a été publié l'an dernier. Et d'ailleurs, il disait que 12% des compagnies consultées reconnaissaient que leur personnel effectuait plus de 100 heures supplémentaires par mois, sachant qu'à partir de 80 heures, le risque de surmenage est considéré comme sérieux. Alors le gouvernement a tardé à réagir, Arnaud Griveaux, et c'est d'abord la question des heures supplémentaires qui est mise en cause.
Oui, c'est vrai, la question des heures supplémentaires, c'est assez étonnant. Il y a 15% des hommes salariés qui font plus de 60 heures par semaine. Disons que dans les années 90, on était à 25%. Mais oui, ce qui est problématique, c'est ça, c'est les heures supplémentaires, les congés. Il y a le taux de prise de congé est à 56%. Environ, donc c'est pas qu'il y a pas seulement 56% des gens qui prennent des congés, mais disons que tous les congés qui sont
on ne prend que la moitié des congés disponibles.
Voilà, on prend soit la moitié, soit on prend un quart, deux tiers, ce genre de choses. Et donc au final, on se rend compte que même les Japonais, c'est ça qui est très difficile en fait, même quand on légifère, c'est que si on n'interdit pas et qu'on met pas des sortes de quotas ou des interdictions avec des sanctions à l'appui, finalement on se rend compte qu'au niveau même des mentalités, c'est très dur, quoi. C'est que les Japonais ont le droit à des congés, mais ils ne les prennent pas. Donc comment changer les choses avec des heures supplémentaires?
Est-ce que c'est lié au fait que le travail tient une place trop importante dans la société japonaise, trop constitutive de la personnalité des travailleurs? Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans Tokyo Sonata, on se souvient de cette scène, donc ce film sorti en 2008 de Kiyoshi Kurosawa, cette scène dans laquelle le héros, un père de famille qui perd son travail et refuse de le dire à sa famille, passe ses journées à errer dans les rues en costume cravate au milieu d'autres cadres également au chômage. C'est emblématique du rapport des Japonais au travail, Julien Martin.
Oui, clairement, le travail occupe une place très importante. Quand vous demandez, encore aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils se présentent, vont se présenter en disant, je suis employé de telle entreprise, j'occupe telle fonction. Donc la première façon de se définir, souvent en société, va être le type d'emploi occupé, ou en tout cas l'entreprise dans laquelle on va travailler. Donc clairement, il y a un lien qui est très fort et qui reste fort malgré les évolutions effectivement récentes qu'on peut voir au niveau de la jeune génération qui va rechercher un équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc tout ça est en train d'évoluer, mais c'est quand même encore très ancré et très caractéristique de la société japonaise.
Est-ce que c'est aussi lié au management, à la japonaise? On parle souvent de l'influence du toyotisme, ce mode d'organisation du travail apparu dans les années 50 et 60. Est-ce que ce serait le toyotisme qui aurait contribué à créer ce sentiment d'un nécessaire dévouement à l'entreprise, et plus encore en période de crise?
Je ne sais pas si ça a créé, si c'est le toyotisme qui va justement être un facteur déclenchant, mais en tout cas le toyotisme va clairement apporter un gain de stress, puisqu'en renversant un peu le système de production, les employés vont subir des pressions de plus en plus forte pour respecter les délais de production, et ça c'est clair que ça a pu jouer et impacter au niveau de la qualité de vie au travail.
Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui sont prises aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène du surmenage? Et est-ce que ça commence à montrer une quelconque efficacité, Arnaud Griveaux?
Alors, sur l'efficacité, je ne sais pas encore, mais en tout cas, disons que le gouvernement Abe, on peut pas lui retirer ça, c'est que il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place justement aussi pour permettre aux femmes d'intégrer le monde du travail, parce qu'on a bien compris qu'il fallait changer le monde du travail pour permettre aux femmes d'intégrer ce monde du travail. Et disons que c'est il y a eu tout un ensemble de lois, il y a eu une loi qui a été adoptée là pour modifier réformer les méthodes de travail, donc on essaie de créer plus de télétravail, ce genre de choses, que donc qui a été adoptée en août 2018, donc c'est très 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 récent quoi.
On en est qu'au début. On arrive presque au terme de cette émission. Alors, un dernier mot peut-être sur l'avenir du monde du travail japonais, Julien Martin, et sur les défis qui doivent encore être relevés, selon vous, dans les prochaines années.
Alors, la question de la qualité de vie au travail fait clairement partie des préoccupations, en tout cas un des chantiers auxquels le gouvernement et les entreprises doivent consacrer beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'il y a un lien directement aussi avec la performance des entreprises, comme le montrent les études récentes.
Merci beaucoup, Julien Martin et Arnaud Griveaux, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Julien Martin, je précise que vous avez coédité les actes du 11e colloque de la Société française des études japonaises, Le Japon au début du 21e siècle, dynamique et mutation. Voilà le titre, c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Philippe Piquier. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur un phénomène japonais qui prend chaque jour plus d'ampleur, celui des hikikomori.
Effectivement, ce phénomène qui a commencé à se répandre au Japon dans les années 90 renvoie à la décision pour des hommes principalement de se retirer de la société pour rentrer chez eux, se cloîtrer dans leur chambre ou retourner chez leurs parents. En 2016, c'était près de 600 000 personnes qui avaient fait le choix de renoncer au monde, un chiffre qui pourrait rapidement atteindre le million tant le phénomène prend de l'ampleur ces dernières années. L'AFP a ainsi rencontré l'un de ses retirants, selon les termes de la sociologue Maya Van Steen, spécialiste du sujet en France, un certain monsieur Ikeida, nom d'emprunt donné à un journaliste âgé de 55 ans et qui vit reclus dans sa chambre depuis près de 30 ans.
Et comment expliquer ce retrait Comment explique-t-il ce retrait de la société, Arjuna?
Eh bien, c'est surtout une grande souffrance qui transparaît de cet entretien, une souffrance et une décision de rejeter les impératifs de conformité auxquels la strain, la société, son entourage, sa famille. Il explique ainsi la pression et les brimades de sa mère pour qu'il réussisse à l'école. Il raconte aussi son parcours sans faute, des bancs de l'une des meilleures universités de Tokyo aux offres d'emploi qu'il reçoit de la part de grandes entreprises prestigieuses. Il parle enfin du déclic, de sa terreur de passer une vie en costume à exercer un métier dénué de sens dans un système compétitif qu'il aborde. Au-delà de cette expérience personnelle, nombreux sont les témoignages de retirants qui expliquent leur choix comme un réflexe de défense, une réaction de survie face à l'intense pression du système scolaire et du marché du travail japonais. Certains parlent ainsi d'une volonté de faire cesser le temps, de créer un abri, un repli face aux vicissitudes du monde, une pause avant l'entrée définitive dans la vie adulte. C'est l'aboutissement paradoxal d'une société qui, en multipliant les injonctions à la vitesse, à la croissance et au progrès, finit par reléguer certains de ses membres dans un état de paralysie sociale et de retranchement hors du temps. Cette faille creusée comme une grotte primaire, cette rupture temporaire pour se penser dans un monde mauvais, pourrait avoir quelque chose de poétique si elle ne traduisait pas dans un même temps une profonde souffrance humaine, un sentiment d'inadéquation avec la société dans laquelle ils ont été projetés.
Une situation encore aggravée par les mutations de la famille japonaise.
Oui, c'est en tout cas ce qu'explique le neuropsychiatre Takahiro Kato, pour qui on est passé de la famille traditionnelle qui comptait beaucoup d'enfants et de générations réunies sous un même toit, à une cellule familiale réduite, père, mère et enfants, réduisant d'autant les mécanismes de solidarité familiale. Ainsi, de nombreux hikikomori résident chez leurs parents, faute de moyens financiers, mais aussi comme une manière de se construire un cocon protecteur et familier dans un espace connu. Mais cela n'améliore pas nécessairement la situation. Comme l'explique Rika Ueda, qui travaille pour une association de parents, les familles éprouvent une grande honte. Elles préfèrent cacher leur situation et à leur tour s'enferment.
Un isolement facilité, selon les spécialistes, par les nouvelles technologies.
Oui, ces dispositifs permettraient de s'enfuir, de s'évader virtuellement grâce aux internets et aux jeux vidéo. Ces appareils permettent de maintenir des liens, aussi ténus soient-ils, par le biais des relations numériques. Une sorte d'évasion vers un monde alternatif et de sociabilité sans parole, de présence sans rencontre. En réalité, si ce phénomène touchait surtout dans les années 90 des adolescents, fuyant la réalité et la brutalité du monde extérieur, les hikikomori ont aujourd'hui vieilli et connaissent de nouvelles difficultés. rejetés. Coupés de leurs proches, ils se retrouvent bien souvent dans des situations d'isolement, d'abandon. Dans un archipel vieillissant où le lien social s'est trop souvent distendu, ce phénomène porte même un nom, le Kodokushi, ou les morts solitaires, qui toucheraient chaque année plus de 30 000 Japonais. Une perte de sens et un retrait de la vie qui ne peuvent que nous interroger alors que la France voit fleurir, elle aussi, les premiers cas de personnes retranchées, ces hikikomori de la modernité.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, et à vos côtés se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives Économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec le chiffre du jour, 1,4 million.
Oui, c'est la baisse du nombre d'habitants au Japon entre 2010 et 2018. C'est une diminution de 1,1% des 126 millions de Japonais. À titre de comparaison, la France a gagné 2,4 millions d'habitants sur cette période. D'autres pays voient aussi leur population baisser, mais le Japon est le plus important d'entre eux. Avec 27% de sa population âgée de plus de 65 ans, il est aussi, et de loin, le pays au monde où cette proportion est la plus élevée. Ce pourcentage des personnes âgées n'est en effet que de 19% en France, de 21% en Allemagne ou encore de 15% aux États-Unis.
Ça doit être un handicap très lourd pour le Japon en l'occurrence.
Oui et non. Les Français sont persuadés le plus souvent que la croissance démographique est une excellente chose, mais l'affaire est en réalité plus compliquée. D'abord, sur le plan écologique, le fait que nous soyons aujourd'hui 7,7 milliards d'êtres humains, alors que nous n'étions que 2,5 milliards en 1950, a un lien étroit avec la grave crise que nous avons déclenchée en changeant le climat et en faisant s'écrouler la biodiversité, même s'il y a bien sûr de très fortes inégalités dans les responsabilités à cet égard. Et parmi les solutions à cette crise écologique, la baisse de la population figure tout en haut du classement. La question qui se pose à ce sujet n'est en guère que de savoir si nous allons être capables d'organiser cette baisse de façon pacifique ou si elle va se produire dans le plus grand désordre. Sur ce plan, le Japon est donc plutôt un précurseur et il ne s'en sort pas trop mal sur cette voie pacifique.
La décroissance de la population pose quand même de sérieux problèmes.
Bien sûr. Une population qui diminue, ça implique par exemple une baisse des prix de l'immobilier puisqu'il y a de moins en moins de gens qui ont besoin de logement. C'est la situation au Japon depuis 30 ans maintenant. Cela pose évidemment des problèmes à tous ceux qui comptaient sur des plus-values immobilières, notamment pour financer leurs vieux jours. Et c'est pour cela que les systèmes de retraite par capitalisation ne peuvent pas fonctionner. Dans un monde en décroissance démographique, les prix des actifs financiers ne peuvent que baisser en effet, interdisant de baser les revenus des retraités sur le capital qu'ils ont accumulé. Mais à contrario, la forte hausse des prix de l'immobilier qui est liée à la croissance démographique en France est une des principales causes de nos difficultés, tant économiques que sociales, une plaie qui est évitée actuellement au Japon. La décroissance démographique implique aussi une proportion de personnes âgées importante en permanence. Ça représente évidemment un poids, puisque ces personnes sont inactives et tirent leurs revenus du travail des personnes actives. Cela implique donc de faire d'importants efforts de productivité pour accroître les richesses produites. Mais sur ce plan, le Japon reste un des principaux champions mondiaux de la high-tech et de la robotique. Ces personnes âgées nombreuses constituent aussi un domaine d'activité économique nouvelle. Et le Japon est pour cette raison déjà un des pays les plus avancés dans ce qu'on appelle la « silver economy ». Et le fait qu'il ait fait l'expérience avant les autres de ce vieillissement de la population lui donne un avantage pour l'avenir.
Se quitte sur Merry Christmas, Mr. Lawrence de Ryuichi Sakamoto. C'est la fin de cette semaine consacrée aux transformations économiques et sociales du Japon depuis l'époque d'Edo jusqu'à nos jours. Demain, on s'interrogera sur la réalité d'un rebond de l'industrie française dans notre émission d'actualité. En attendant, si vous voulez, vous pouvez réécouter nos émissions sur franceculture.fr ou en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.